Bonjour, bienvenue au balado Histoire et théorie de l'anthropologie. Mon nom est Martin Hébert, je suis professeur au département d'anthropologie de l'Université Laval. Aujourd'hui, on a la grande joie de recevoir Marianne Lemaire, qui est anthropologue au Centre national de recherche scientifique CNRS de France, membre de l'Institut des mondes africains, une spécialiste de l'ethnologie Sénoufo de Côte d'Ivoire, mais qui est ici aujourd'hui particulièrement en tant que spécialiste de l'histoire de l'ethnologie pour venir nous parler de ses travaux sur la contribution des femmes au développement de l'anthropologie dans l'entre-deux-guerres en France et plus particulièrement d'une femme, Deborah Lifshitz, et je crois aussi, on va entendre parler de Denise Paulme, deux carrières qui ont été et deux vies qui ont été quand même entremêlée. Donc, on va saluer Marianne. Mais avant, j'aimerais présenter à tout le monde Hugo Carrera-Garin, à qui on doit justement le fait d'avoir identifié et repéré les travaux de Marianne Lemaire, qui tombe tout à fait dans cette séquence qu'on est en train de faire sur la contribution des femmes à l'anthropologie. Donc, Hugo, j'aimerais peut-être juste te laisser te présenter, dire deux mots sur qui tu es avant de retourner à Marianne.
Bonjour, je suis étudiant au bac en anthropologie. Et j'ai travaillé pendant toute ma session sur le développement du balado et j'ai pu en apprendre beaucoup sur justement les femmes en anthropologie, leur contribution qui est souvent gardée derrière le rideau dans les livres d'histoire. Et ça a été vraiment un plaisir de mettre un peu la lumière sur tant de personnalités méconnues.
Donc, Marianne, j'aimerais peut-être commencer avec une mise en contexte générale. Dans un de vos textes, vous avez fait une affirmation que j'ai trouvée très intéressante à propos du rôle des femmes dans l'ethnologie française de l'entre-deux-guerres et en particulier leur rôle dans la professionnalisation et l'institutionnalisation de la discipline, où vous avez écrit que pendant que, disons, les figures masculines les plus proéminentes de l'ethnologie française avaient des aspirations littéraires, avaient des aspirations, à jouer dans d'autres domaines de la culture que l'ethnologie, on pourrait dire scientifique, les femmes, elles, avaient une approche assez différente, centrée justement sur ce qu'on pourrait appeler le travail ethnologique fondamental, et ce qui leur donnerait une place quand même assez particulière et clé justement dans la définition de la discipline elle-même. Donc, si vous pouviez commencer simplement pour nous faire une mise en contexte de quoi l'ethnologie des années 30, disons, peut avoir l'air et quelle était la place des femmes, justement, dans ce panorama-là.
Bonjour à toutes et à tous, tout d'abord, et merci beaucoup de cette question. Alors, nous, dans les années 1920 et 1930, nous sommes au tout début de l'institutionnalisation de l'ethnologie française, qui est tardive par rapport à l'anthropologie britannique, allemande ou américaine, et qui, en France, s'articule autour de deux événements principaux. D'une part, fin 1925, la création de l'Institut d'ethnologie de l'Université de Paris, qui par Marcel Mauss, que l'on connaît bien, par Paul Rivet, par Lucien Lévy-Brulle et par Marcel Cohen. Cet institut a pour ambition d'initier dans un premier temps les coloniaux, les administrateurs coloniaux à l'ethnologie, mais aussi de former des ethnologues professionnels capable de mener des enquêtes et des collectes méthodiques sur des terrains exotiques. Le deuxième moment important de l'institutionnalisation de l'ethnologie française, c'est la rénovation du musée d'ethnographie du Trocadéro à partir de 1928, sous la double impulsion de son directeur, Paul Rivet, à nouveau, mais aussi de Georges-Henri Rivière, son sous-directeur. Et on peut dire que ces deux institutions, l'Institut d'ethnologie et le Musée d'ethnographie du Trocadéro, vont jouer un rôle très très important dans la professionnalisation et l'institutionnalisation de l'ethnologie française. Et elles seront en quelque sorte les garantes scientifiques de toutes les missions ethnographiques des années 1930. Et donc, des deux missions auxquelles Deborah Lifshitz a participé et dont on parlera plus tard. comme je le disais, on est au tout début de l'institutionnalisation et il y a cette volonté de démontrer que l'ethnologie est bien une science. Et paradoxalement, en dépit de cette volonté qui est exprimée et aussi mise en œuvre à travers tous les moyens développés dans les missions, les moyens techniques, tout est là pour montrer la scientificité de la discipline, en dépit de cette volonté affirmée, les anthropologues français ont un peu cette particularité dans l'entre-deux-guerres d'avoir écrit ce que Vincent Debanne a appelé un deuxième livre, c'est-à-dire un livre plus littéraire, plus personnel, plus subjectif que ne pouvaient l'être les monographies sur les populations dans lesquelles ils avaient fait du terrain et auprès desquelles ils avaient séjourné. C'est le cas de Marcel Griol, qui a par exemple écrit un ouvrage comme Les Flambeurs d'hommes. C'est le cas encore plus connu de Michel Léris, pas seulement des africanistes, Alfred Métro, Georges Soustel, ont tous écrit ce que Vincent Debanne a donc appelé un deuxième livre. Mais en revanche, les anthropologues femmes, dire qu'elles étaient nombreuses est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, elles étaient mieux représentées que dans d'autres sciences. Donc, les anthropologues femmes qui ont été assez bien accueillies dans la discipline pour des raisons très ambivalentes, c'est-à-dire qu'elles ont été très bien accueillies à la fois parce que c'est une discipline toute jeune, comme je l'ai dit, et donc il n'y a pas grand-chose à en espérer d'un point de vue carrière professionnelle. Donc, la place est libre d'une certaine manière pour les femmes. Elles ont été bien accueillies également, toujours pour une autre raison négative. On leur reconnaissait des connaissances empiriques plus facilement qu'on ne leur reconnaissait des capacités théoriques. Et donc, la dimension terrain que comporte l'ethnologie se prêtait bien à leur tendre la main, d'une certaine manière. Et puis, la dernière raison pour laquelle elles ont été bien accueillies, c'est le fait que les scientifiques ont l'impression qu'on manque d'informations sur les communautés féminines et en particulier sur les sociétés secrètes féminines. Et ils ont en tête l'idée que seules des femmes peuvent travailler auprès des femmes. Donc, les femmes ont été bien accueillies, elles ont réalisé, relativement bien accueillies ou mieux accueillies que dans d'autres disciplines scientifiques. Elles ont été encouragées à partir sur le terrain, mais à leur retour, elles n'ont pas, comme vous le disiez, elles n'ont pas écrit le deuxième livre que leurs collègues masculins ont écrit. Elles se sont effectivement astreintes à mettre de côté la dimension personnelle de leur expérience et mon hypothèse est qu'il leur fallait, en tant que femmes, montrer bien plus que leurs collègues masculins leur légitimité dans le champ scientifique et que donc ne pas investir ce alors même que on le voit bien dans les archives, elles avaient des goûts littéraires, des styles d'écriture extrêmement personnels. Deborah Lifshitz en particulier, dans ses archives, on trouve des portraits très amusants et très littéraires de ses collègues. À mon avis, elles se sont bien gardées de rendre public ce genre de texte parce qu'il leur fallait montrer leur légitimité d'abord en tant que scientifiques, faute de quoi elles risquaient d'être considérées, comme ça a été le cas de certaines d'entre elles, comme des dilettantes, ou bien comme des femmes de lettres, ou bien comme des voyageuses. C'est une époque où beaucoup de voyageuses sont très connues et médiatisées, mais leur ambition est précisément de devenir des scientifiques, et donc elles sont, c'est pour ça que j'ai été amenée à dire qu'elles avaient été plus scientifiques, d'une certaine manière, que ne l'avaient été leurs collègues masculins.
Et en termes de quantité, c'est-à-dire de nombre de femmes qui pouvaient être impliquées, parce que, bon, je suppose qu'on commence par une formation dans des séminaires à l'Institut d'ethnologie. Est-ce que vous avez une idée de leur représentation et aussi de leur rôle. Si on regarde, par exemple, dans l'anthropologie britannique, on voit que les femmes ont été maintenues longtemps, à part quelques figures comme Lucy Mare, par exemple, mais les femmes ont été maintenues dans des rôles d'assistantes de recherche beaucoup, retranscription des notes, travail de bureau, etc. Donc, en termes, je dirais, quantitatif et qualitatif, est-ce qu'elles étaient beaucoup et est-ce que, justement, elles étaient reléguées à certaines tâches ou, comme vous semblez le dire, elles ont été quand même invitées à aller sur le terrain, faire du travail, disons, de cueillette de données assez rapidement, là?
Alors oui, vous avez raison, hein. Il y a plusieurs niveaux de participation des femmes à la vie anthropologique de l'entre-deux-guerres. Un premier niveau et un niveau qui, le niveau qui compte le plus grand nombre de femmes, c'est le niveau des petites mains, des collaboratrices qui ont joué le rôle de petites mains dans la rénovation du musée d'ethnographie. Un très grand nombre de femmes appartenant le plus souvent à la grande bourgeoisie fait des fiches, jouait le rôle de muséographe dans le meilleur des cas. Et là, effectivement, c'est un groupe très important qui est sans commune mesure avec celles qui, d'une part, ont suivi une formation à l'Institut d'ethnologie qui a été pour elles peut-être plus là, une condition que pour les hommes. Beaucoup d'hommes, notamment les membres de la mission Dakar Djibouti, n'avaient pas de formation en ethnologie avant de partir. Ce n'est pas le cas de Deborah Lipschitz et ce n'est pas le cas des femmes qui sont invitées à partir en mission, quoiqu'il y a des exceptions. Donc, je donne juste une tendance générale. Donc, elles sont moins nombreuses à avoir suivi une formation à l'Institut d'ethnologie et elles sont évidemment encore moins nombreuses à avoir eu la possibilité de partir en mission. Et quand elles ont eu cette possibilité, ça a été sous trois modalités différentes, soit dans un collectif, comme c'était le cas de Deborah Lipschitz au sein de Dakar Djibouti, soit, et c'était peut-être la voie privilégiée, avec leur mari, soit avec une collègue du même sexe. Donc voilà, un binôme féminin. C'était un peu les trois modalités. La modalité de la mission en couple étant, comme vous pouvez l'imaginer, une des voies par lesquelles il était difficile de s'extraire comme véritable personnalité scientifique. Les femmes qui sont parties en entre-deux-guerres sont au nombre de 12. Et voilà, elles sont, selon ces trois modalités, elles n'ont évidemment pas été amenées ni à faire le même travail sur le terrain, ni à avoir la même carrière à leur retour de terrain.
Et Deborah Lipschitz s'inscrit au sein du collectif tout en étant partie avec une binôme. D'où vient un peu son intérêt pour justement l'africanisme et aussi son financement pour justement sa mission?
Deborah Lipschitz n'est pas partie qu'en binôme. C'est important de souligner qu'en fait, elle a deux expériences de terrain. Elle a une première expérience de terrain en tant que membre de la mission Dakar Djibouti. Donc certes, elle ne participe pas à l'ensemble de la mission Dakar Djibouti. Elle ne participe en tant que spécialiste et en raison de sa formation sur laquelle je reviendrai, elle participe à l'étape éthiopienne de la mission Dakar Djibouti. Donc elle rejoint le reste de la mission assez tardivement et en même temps, l'étape éthiopienne de la mission Dakar Djibouti est la plus longue. Elle rejoint la mission en juillet 1932. Avec Gaston Louis Roux, qui est un artiste peintre que Griot auquel Griot l'avait demandé sa contribution pour reproduire les peintures des églises éthiopiennes. Donc ils arrivent tous les deux en juillet 1932, ils rejoignent la mission à ce moment-là. Donc ça c'est la première expérience de Deborah Lipschitz sur le terrain, donc en 1932-33. De juillet 1932 à février 1933, qui marque la fin de la mission Dakar Djibouti. Et la deuxième expérience de Deborah Lipschitz, comme vous le disiez, est une expérience en binôme avec Denise Paul, donc un binôme d'anthropologues femmes, qui a quand même cette particularité, et ce n'est pas sans conséquence sur le travail, enfin sur la manière dont la mission s'est déroulée, qui a quand même cette particularité d'avoir commencé elle aussi sous l'égide de Marcel Griol, puisque cette mission qui va s'appeler Pomme Lipschitz, mais qui dans l'esprit de Marcel Griol n'était pas destinée à être appelée comme ça, qui dans l'esprit de Marcel Griol était vraiment vue comme un appendice de sa propre mission, qui était alors la mission Sahara Soudan, qui est une mission centrée sur le pays d'Ogon en 1935. Donc la mission Sahara Soudan part en janvier 1935 avec un certain nombre de participants et Deborah Lipschitz et Denise Paulm. Mais Denise Paulm a un financement qui lui est propre. Elle propose à Deborah Lipschitz de le partager avec elle. Et pour cette raison, elles ont la possibilité de rester, ce qui n'est pas du tout négligeable, 7 mois de plus sur le terrain que les membres de la mission Sahara Soudan. Donc, en fait, elle a cette double expérience et cela donne deux expériences très, très, très différentes qui ne lui donnent pas du tout les mêmes possibilités d'action et de la même liberté d'action dans les deux cas. Enfin, j'imagine qu'on en reparlera, mais c'est deux expériences bien différentes.
Vous avez mentionné cette idée des sociétés de femmes. Ça semble plein de présupposés sur la nature du terrain, sur l'accès, etc. Je ne sais pas si vous pourriez nous en dire plus sur, justement, le premier mandat qui avait été donné, justement, si je ne me trompe pas, c'était dans la mission de 1935, et comment, à partir de cette... un peu ce mandat initial-là, il y a eu un élargissement ou une transformation où c'était un atout d'être une femme pour étudier des sociétés secrètes de femmes, où ça n'a rien changé, ils sont demeurés aussi secrètes. Donc, peut-être juste vous entendre.
Oui, vous avez tout à fait raison. De la part de Marcel Griol en particulier, qui occupe une place très importante, enfin son école occupe une place très importante à partir de l'entre-deux-guerres, il y a cette idée que les informateurs, que les communautés recèlent des secrets, en fait. Il y a cette idée qu'il y a des secrets à dévoiler. C'est une idée très, très forte et qui est en quelque sorte accentuée quand ils envisagent la possibilité de travailler avec les femmes. Il y a un peu cette idée que les femmes, plus encore que les hommes, elles auraient des sociétés secrètes, plus secrètes encore que celles des hommes, et donc des femmes seules pourraient les étudier. Donc, c'est effectivement Deborah Lifshitz et Denise Paulm qui ont été plus particulièrement confrontées à cette demande, à cette injonction de travailler sur les femmes et en particulier sur les sociétés secrètes féminines. En fait, Denise Paulm est très, très embêtée. Elle écrit à son mari, moi, je voudrais bien travailler sur les sociétés secrètes féminines, mais elles n'existent pas ici. Elle se rend également bien compte que le contexte colonial, qui est celui du Soudan français à l'époque, actuellement le Mali, que le contexte colonial du Soudan français la masculinise d'une certaine manière. En fait, elle n'est pas perçue comme une femme par les autres femmes, ni par les hommes, Dogon d'ailleurs. Elle n'est pas perçue comme une femme, elle en est entièrement consciente, elle en parle à son mari. Elle dit, voilà, comment moi je me comporte comme un homme. Et par ailleurs, de toute façon, elle investit. Elle se donne toutes les possibilités. Elle ne se refuse aucune des possibilités. Elle vit dans le contexte dans lequel elle évolue, dans le contexte dans lequel elle évolue. Et elle n'écarte pas les possibilités que lui donne le contexte colonial. C'est-à-dire qu'elle aussi, même si... À bien des égards, Deborah Lifshitz et Denise Paulm se distinguent du comportement de l'équipe de Marcel Griol. Elles aussi ont recours à l'autorité que leur donne le contexte colonial. Elles distribuent éventuellement des amendes quand les informations ne leur sont pas données. Bref, tout ce contexte et la manière dont elles l'investissent les masculinisent et les empêchent aussi d'accéder au monde des femmes. Les complicités qu'elles vont nouer, parce qu'elles vont malgré tout nouer de véritables complicités, elles vont, le fait de rester longtemps sur le terrain, ce qui est une particularité aussi des anthropologues femmes de l'entre-deux-guerres, le fait de rester longtemps sur le terrain leur permet de nouer de véritables complicités, des relations privilégiées, ce qui n'est pas le cas des membres de la mission Sahara-Soudan. Voilà.
En ce moment, on se distingue comment, justement, par leur comportement Marcel Griol et de Moss.
Alors, Moss n'est pas un homme de terrain. C'est vraiment un anthropologue de cabinet. Et si effectivement il a été très présent dans l'institutionnalisation de l'ethnologie, c'était depuis son cabinet. Donc, oui, mais je pense que vous pensiez à l'injonction que leur faisait Moss parmi d'autres. Elle se distingue, comme je le disais, d'une part en restant plus longtemps sur le terrain que leurs collègues masculins. Et je dirais que ça, c'est une particularité de l'ensemble des femmes des anthropologues femmes de cette époque. Elles ont souvent l'impression qu'elles ont plus de preuves. On est toujours dans des questions de légitimité, légitimité recherchée. Et parce qu'elles ont le sentiment d'avoir plus de preuves à donner que leurs collègues masculins, voilà, c'est jamais le bon moment pour rentrer. Elles n'ont pas encore accumulé assez de documents pour reprendre leurs termes. Elles ne se sentent pas encore en droit de rentrer avec tous les résultats qu'elles aspiraient à obtenir. Donc, elle réalise des séjours sur le terrain beaucoup plus longs, qui particularise dans le cas de Denise Polm et de Deborah Lipschitz pendant la mission Polm-Lipschitz. Elles se distinguent également par leur sujet de recherche. Donc, elles ne travaillent pas sur les femmes, à la fois parce qu'elles ne sont pas perçues comme des femmes, mais aussi parce que, enfin, c'est plus difficile à montrer, mais il y a quand même des signes de cela dans les archives. Il y a aussi cette idée que si elles se limitent à travailler sur les femmes, elles resteront les petites mains, dans le meilleur des cas, spécialistes des femmes. Voilà. Et chez Denise Polm en particulier, il y a cette volonté d'embrasser l'ensemble de la société. La monographie de Denise Polm s'appelle « Organisation sociale des Dogons ». Et comme le dit Michel Léris dans son compte-rendu, elle rencontre de l'ensemble, de l'armature, de l'ensemble des structures sociales Dogon. C'est presque la première véritable monographie française. C'est un véritable exemple. Elle embrasse donc toute la société et on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est aussi la meilleure manière de... même à une époque où elle ne l'espère pas encore, hein. Elle-même n'y croit pas, elle-même voit encore son activité comme une vocation et non pas comme un métier possible, elle n'ose pas l'espérer. Se pencher sur l'ensemble des institutions comme elle le fait est malgré tout la meilleure promesse d'un avenir plus durable dans l'ethnologie. Et donc, ça c'est le cas de Denise Polm, mais Deborah Lipschitz, elle va travailler, alors même que Marcel Griaul, à ce moment-là, autant dans le cas de Dakar Djibouti, il vise à l'exhaustivité. Autant dans le cas de la mission Sahara-Soudan, 3 ans plus tard en pays Dogon, sa priorité, c'est le sacré. C'est le domaine du sacré. C'est le religieux, le sacré. Et Deborah Lipschitz et Denise Polm vont se distinguer de ce modèle-là. Et dans le cas de Deborah Lipschitz, elle va travailler sur la littérature orale, comme sa formation de linguiste l'y invite, mais sur la littérature orale dégagée des contextes religieux. Et c'est ces objets-là, en fait, qui ne sont pas légitimes pour Marcel Griaul et qui fait dire à Marcel Griaul en 1938 que Deborah Lipschitz et Denise Polm, qui écrivent 4 articles à 4 mains, qu'elles écrivent des énormités. Je le cite, ils disent, voilà, enfin, elles écrivent des énormités. Les énormités, bah, je pense que pour lui, c'est les objets qu'elles traitent et pas le contenu des articles, qui sont effectivement, enfin, qui sont très sérieux, mais voilà, selon Marcel Griaul, ce ne sont pas des objets légitimes.
Et c'est en continuité, si je reviens à quelque chose que vous avez mentionné, avec probablement la formation de Deborah Lipschitz, qui a vraiment un bagage linguistique qui semble plus élaboré que beaucoup de ses contemporains, là.
Oui, tout à fait. Deborah Lipschitz, c'est vraiment l'un des anthropologues, parce qu'elle est aussi beaucoup plus formée que les hommes, elle est l'une des plus formées, des anthropologues les plus formés de l'entre-deux-guerres. Donc, elle est née je vais peut-être rappeler quand même qu'elle est née en 1907 à Kharkov ou Kharkiv, une ville d'Ukraine qui est alors sous domination russe. En 1919, sa famille, en raison des exactions qui sont perpétrées en Ukraine à ce moment-là à l'encontre des Juifs, sa famille vient s'installer à Varsovie, qui est alors la capitale de la Pologne nouvellement indépendante. Et donc, elle a alors 12 ans. Et très rapidement à Varsovie, sa famille, qui était probablement francophile, mais je n'ai pas de preuves de cela, mais sa famille l'inscrit au lycée français de Varsovie qui vient juste tout d'ouvrir. Et donc, elle fait toutes ses études de la classe de 6e au baccalauréat qu'elle obtient en 1927. Elle fait ses études au lycée français de Varsovie. Dès son baccalauréat obtenu en 1927, elle part à Paris. Donc elle parle français, donc elle a cette possibilité, enfin en tout cas une possibilité plus grande de venir faire ses études à Paris. Elle vient à Paris et elle suit une triple formation, j'ai envie de dire. Elle s'inscrit dans un premier temps, elle fait tout ça en même temps et en 4 ans, elle obtient 3 types de diplômes différents, ce qui est quand même assez exceptionnel. Elle s'inscrit à l'École nationale des langues orientales vivantes, où elle est diplômée, elle obtient les diplômes d'élève breveté pour l'arabe littéral, pour le persan, pour l'amharique et le gaze en 1931. Donc ça, c'est une première branche, j'ai envie de dire, de sa formation. Mais elle suit également les cours de l'Institut d'ethnologie, où elle obtient les certificats d'histoire des religions et des langues sémitiques anciennes. Cette formation lui permet de décrocher sa licence, pour lequel peu de femmes suivent la formation d'une part et obtiennent le diplôme d'autre part. Et troisième branche de sa formation, qui est un peu décalée par rapport aux deux précédentes, mais qui est très importante pour elle aussi, enfin, et qui a une visée un peu pragmatique, mais pas uniquement. Elle a véritablement le goût des livres, et donc elle s'inscrit à la formation de l'école municipale des bibliothécaires. Et elle est également diplômée en 1931. Là, elle obtient son diplôme de bibliothécaire et elle est aussitôt recrutée à la bibliothèque Fornay, où elle occupera des postes. Enfin, quand elle ne sera pas en mission, ça lui donnera une source de revenus non négligeable, sachant qu'elle vient d'un milieu très modeste et qu'elle n'est non seulement pas aidée par sa famille, mais qu'elle doit elle-même aider sa famille qui est restée en Pologne et qui ensuite partira en Palestine. Donc, elle a cette triple ou cette double formation. Enfin, oui, on peut même parler de triple formation, mais bon, c'est quand même avec deux formations qui en consolident une très complète. Et cette formation de bibliothécaire qui, oui, comme je le disais, une manière de s'assurer des revenus à une époque où, encore une fois, elle n'ose pas espérer faire de l'anthropologie un métier, mais c'est encore plus vrai pour les femmes. Je dirais que voilà, les assignations de genre font qu'on voit plus une femme en bibliothécaire qu'en anthropologue, et donc voilà, ça lui donne une assurance plus large de s'assurer un revenu.
Et sa formation en Amérique va vraiment la mettre au premier plan des missions anthropologique qu'elle va mener, particulièrement celle d'Akkadjibouti.
Exactement. Aussitôt recrutée, elle va rencontrer Georges-Henri Rivière, qui est le sous-directeur du musée d'ethnographie du Trocadéro. On est donc en juillet 1931. La mission d'Akkadjibouti est déjà partie. Elle est partie au mois de mai de la même année, au mois de mai 1931. Elle rencontre Georges-Henri Rivière en lui disant qu'elle serait heureuse de se rendre utile et au musée d'ethnographie. Georges-Henri Rivière lui conseille, regarde sa formation, et il lui conseille d'écrire à Marcel Griaule pour lui demander si elle ne pourrait pas être utile dans le cadre de la mission d'Akkadjibouti. Marcel Griaule lui répond quelques jours plus tard, si mes souvenirs sont bons, pour lui dire que oui, il l'attend, à condition qu'elle trouve les financements, et ça c'est Georges-Henri Rivière qui s'occupera de les trouver. C'est un homme qui avait beaucoup d'entre gens et qui s'occupe de mettre les gens en relation et de décrocher des financements. Donc Marcel Griaule lui dit que oui, il serait très très heureux qu'il la rejoigne. Ce qu'elle va faire, elle va partir avec Gaston Wiroul en mars 1932, donc environ 8 mois plus tard. Sa venue sera d'autant plus bienvenue, je dirais, que la mission d'Akkadjibouti avait déjà un linguiste qui répondait au nom de Mouchet, mais que ce linguiste avait démissionné, avait quitté au Cameroun la mission, et que donc il n'y avait plus de linguiste. Donc, Marcel Griaule dit oui. Après je ne cesse de penser que la rapidité de sa réponse est très étonnante et étonne y compris les membres de la mission. Et il était question que la femme de Marcel Griaule les rejoigne. Et puis bientôt, il n'en est plus question. Mais en revanche, Deborah Lichitz va rejoindre la mission, ce qui n'est pas sans susciter d'amertume de la part de la femme de Marcel Griaule. Et on s'aperçoit qu'elle fait emprunter à Deborah Lichitz pour rejoindre la mission le chemin le plus difficile, en fait. Dans l'esprit de Marcel Griaule, elle devait plutôt passer par Khartoum, qui était un chemin sans encombre. Et au lieu de cela, Jeanne Griaule, qui est aussi administratrice, qui joue un rôle puisqu'elle est administratrice de la mission avec Georges-Henri Rivière, Jeanne Griaule lui fait emprunter un parcours plus difficile avec Gaston Louis Roux. Et de fait, cette jonction vers la mission d'Akkadjibouti est pleine de difficultés que et Gaston Louis Roux, l'artiste peintre, et Deborah Lichitz surmontent très, très bien. Et oui, pour poursuivre sur sa formation et les atouts qu'elle lui procure, une fois arrivée, Deborah Lifschitz est la seule, avec Marcel Griol, à parler à Marie Higuez. Et son arrivée libère, en quelque sorte, Marcel Griol de tâches. Peut-être quand même que certaines d'entre elles, il rechignait peut-être à certains d'entre elles. En tout cas, il la libère, il lui confie des tâches pour pouvoir lui-même se livrer à d'autres activités, notamment par rapport aux peintures. Donc, en fait, elle a une mission. Elle est peut-être encore plus que les autres membres de la mission, sous l'autorité de Marcel Griol, avec une mission encore plus précise du fait de sa formation et de ses compétences. Et c'est donc elle qui va, pas toute seule, mais c'est principalement elle qui va constituer la collection de manuscrits, qui va procéder à leur traduction, qui va mener des enquêtes également sur des pratiques religieuses. C'est peut-être elle qui sera le plus assignée à résidence au campement, parce qu'elle reçoit beaucoup, elle négocie à la place de Griol le prix des manuscrits. Elle dit d'ailleurs à sa famille, Griol préfère me confier cette tâche parce que je le fais beaucoup plus calmement, et puis moi je négocie vraiment, alors que lui, pour se débarrasser de ses interlocuteurs, il accorde tout de suite. Donc en fait, elle est un peu l'intermédiaire de Marcel Griol pour l'achat des manuscrits. Et elle le libère d'un certain nombre de tâches qui lui permet, lui, d'en réaliser d'autres.
Vous avez parlé tout à l'heure d'articles qui auraient été produits au retour de mission. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un peu plus de détails sur la réception de son travail par ses contemporains? Donc, vous avez parlé de Marcel Griol qui aurait bien aimé voir peut-être les publications aller dans un autre sens. D'après ce que vous décrivez, elle semble avoir amassé quand même une quantité importante de matériaux. Je ne sais pas si elle avait le contrôle sur ces matériaux-là dans une expédition comme ça. Des fois, ça va à un chercheur principal avant de venir à la personne qui recueille. Donc, si vous pouvez nous donner un portrait de sa carrière et de sa vie qui a été quand même écourtée. Donc, je suppose que c'est une période quand même assez brève au retour de mission où elle a eu une présence anthropologique à travers des publications, des enseignements peut-être.
Alors, là encore, il faut peut-être distinguer les publications qui ont fait suite à la première et à la deuxième mission. Les publications qui ont fait suite à la mission Dakar-Djibouti sont... Alors, c'est difficile de dire qu'il y a moins d'articles. Et peut-être que j'ai omis de dire tout à l'heure, il y a deux articles qui concernent le travail qu'elle a malgré tout pu mener à la fin de la mission, quand la mission est en fait en partance. Mais, enfin, la mission aurait dû quitter Gondar, donc la ville éthiopienne où elle est installée, mi-octobre. Mais en fait, Marcel Griol n'obtient pas l'autorisation de partir. Et donc, elle est retenue jusqu'au début décembre. Et donc, c'est une période de latence, en fait, où aucun membre de la mission ne sait véritablement où il est. Est-ce qu'il travaille encore? Est-ce qu'il ne travaille plus? Le campement est à moitié démonté. Enfin, voilà, on est dans un entre-deux. Et Deborah Lifschitz met ce moment à profit pour faire les recherches qui lui tiennent le plus à cœur. Donc, des recherches proprement ethnographiques, pour le coup, et qui concernent les minorités non chrétiennes, donc les Falachas et les Kémantes. Et ces publications, ces articles vont concerner ces enquêtes-là. Mais ces articles sont au nombre de deux uniquement. Alors, pourquoi je dirais que la situation éthiopienne joue un rôle. La situation politique est déjà est la cause de beaucoup de problèmes pour la mission au moment où elle se déroule. Mais après, l'Éthiopie devient absolument inaccessible, donc impossible de revenir sur le terrain, de compléter sa documentation. Ça, c'est une chose. Et il n'est pas complètement impossible aussi que l'évolution de ses relations avec Marcel Griol, qui font suite à la deuxième mission, la freine aussi dans ses possibilités de publication. En revanche, elle publie malgré tout à la suite, enfin dans le prolongement, pas à la suite, mais dans le prolongement de son expérience éthiopienne, le manuscrit qui correspond à son diplôme de l'EPHE qu'elle soutient en 1937. Donc elle publie en 1940 dans la collection de l'Institut d'ethnologie dont je vous parlais tout à l'heure. Cette collection s'appelle « Travaux et mémoires de l'Institut d'ethnologie » et son ouvrage s'intitule « Textes éthiopiens magico-religieux ». Alors, pour ce qui concerne la réception, malgré tout, l'ouvrage est l'objet de plusieurs recensions. Herskovitz, notamment, aux États-Unis, un chercheur spécialiste dont j'ai oublié le nom en Grande-Bretagne, un Italien et un quatrième, des recensions plutôt élogieuses, même si on sent bien que ce sont des recensions conscientes de parler d'un ouvrage de femme, donc toujours avec un brin de condescendance sur le côté minutieux, sérieux du travail, minutieux plus que sérieux, sérieux ce n'est pas péjoratif, mais minutieux peut l'être, mais des recensions très, très positives pour certaines, qui paraissent pour certaines après-guerre et qu'elle n'aura malheureusement pas eu la possibilité de découvrir. Pour ce qui concerne ses publications dans le prolongement de la seconde mission, de la mission Paul Lifshitz, ce sont pour la plupart d'entre elles, mais pas exclusivement, des publications à quatre mains avec Denise Paulm, qui portent principalement sur la littérature orale et dont je dirais qu'elles ont été très mal reçues, comme je l'ai dit tout à l'heure, par Marcel Griol, mais que par ailleurs, y compris les spécialistes des Dogons aujourd'hui, qui trouvent encore aujourd'hui des véritables ressources qui comptent comme des articles importants dans la bibliographie sur les Dogons.
Aujourd'hui, vous travaillez sur une exposition justement mettant de l'avant Deborah Lifshitz au musée de Quai Branly. Donc, elle a un certain legs, un héritage encore aujourd'hui. Pouvez-vous justement développer sur qu'est-ce qu'on en retient de ses techniques, son approche méthodologique et son travail?
Oui, vous parlez du projet d'exposition qui doit se tenir au musée du Quai Branly en 2025, mais dont l'objet précisément, et du coup, je réponds par votre question un peu par une voie détournée, dont l'objet précisément est de mettre au jour les personnes les plus invisibilisées de la mission. Et donc, Deborah Lifshitz compte parmi ces personnes invisibilisées dont le legs a été aussi invisibilisé. Donc, c'est en fait, il s'agit plutôt de faire apparaître la valeur de son travail, de sa contribution à travers sa figure, mais aussi à travers celle des collaborateurs africains qui ont également été invisibilisés. Le fait qu'elle apparaisse comme une figure importante dans le cadre de cette exposition montre aussi que malheureusement elle a été écartée. Même sa présence dans la mission n'est pas connue de toutes et de tous parmi les anthropologues. Tout est encore à remettre en lumière, je dirais.
Deborah Lifshitz a eu une carrière somme toute intéressante à son retour de mission et a eu un certain nombre de publications, mais ce fut quand même une vie écourtée. Nous parlons à peu près d'une décennie de production entre ses retours de mission et sa disparition. Je ne sais pas si vous pouvez nous parler de la dernière décennie, disons, là, de sa vie personnelle.
Oui, c'est tout à fait juste. Deborah Lifshitz a eu une carrière, on peut le dire, en raison de ses expériences de terrain, de ses publications, de son expérience de l'enseignement également. Elle a eu une carrière, mais une carrière extrêmement courte et interrompue brusquement et tragiquement en 1942. En effet, comme je le disais tout à l'heure, Deborah Lifshitz est polonaise quand elle arrive russophone, mais polonaise quand elle arrive en France en 1927. Elle essaye d'obtenir sa naturalisation très rapidement. Elle fait 4 demandes, dont 3 se soldent par des échecs. Il y a une demande pour laquelle le dossier est perdu, 2 demandes à journée. Elle obtient sa naturalisation au prix de gros efforts en 1937, donc 10 ans après son arrivée en France. Elle obtient sa naturalisation française, mais cette naturalisation ne la met absolument pas, comme on le sait, à l'abri des lois anti-juives qui se font jour pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1939, elle doit quitter le logement qu'elle occupait depuis plusieurs années parce qu'il ferme ses portes. Elle habite pendant un certain temps au Musée de l'Homme, mais elle doit le quitter après que la police allemande est intervenue et arrêté l'ensemble des personnes présentes parce qu'elle suspectait à juste titre l'existence de pratiques de résistance. Elle est libérée le soir même comme ses compatriotes, comme ses collègues. Elle doit donc trouver un autre logement. Elle est alors accueillie par Michel Léris, qui lui-même a déménagé à ce moment-là et dont l'appartement est donc libre. Et c'est là qu'elle est arrêtée en février 1942. Sous prétexte d'activités politiques douteuses, il semblerait qu'elle n'ait en réalité pas eu d'activité politique douteuse ou non. Mais le temps que l'enquête soit menée, elle est d'abord internée à la caserne des Tourelles pour 6 mois. Et au bout des 6 mois, l'enquête conclut qu'il n'y a pas de raison de s'opposer à sa libération, mais elle a déjà été transférée à Drancy, puis remise aux autorités occupantes, puis finalement déportée. Et elle a trouvé la mort en 1942, peu de temps après être arrivée à Auschwitz.
Et durant cette période, elle a publié quand même des articles avant son arrestation.
Oui, tout à fait. Oui, son œuvre s'étend sur peu d'années finalement, hein, entre 1933 et 1900. Il y a aussi des œuvres posthumes pour lesquelles Marcel Cohen ont œuvré, ainsi que Denise Paulme.
Merci pour le panorama de nous faire découvrir ce personnage-là. D'après vous, quelles sont les prochaines étapes? Quelles sont, si vous avez, de nouveaux projets à mettre sur pied, de nouveaux personnages à mettre de l'avant, de nouvelles figures de l'histoire de l'anthropologie. Vous adressant ici à des étudiantes, étudiants en anthropologie qui sont certainement intéressés à continuer de développer un regard nouveau sur la discipline. Quelles sont les avenues que vous entrevoyez, les chantiers qui sont devant nous et qui demande à être, travaillé et exploré dans les prochaines années?
Je vais vous répondre par une voix un tout petit peu détournée. Ce qui est intéressant aussi avec la mission Dakar Djibouti, que ces spécialistes, parce que oui, je voudrais préciser ici que je parle de la mission Dakar Djibouti sans en être du tout l'unique spécialiste. Bien au contraire, je m'appuie sur les travaux de nombreux collègues. Il y a les travaux pionniers de Jean Jamin, mais aussi les travaux en histoire de la discipline d'Éric Joly, Julien Bondaz, Christine Laurière et beaucoup d'autres. Donc voilà, je tiens ici à préciser que c'est un travail collectif et que c'est ensemble que nous arrivons à connaître un peu mieux la mission Dakar Djibouti, mais aussi d'autres missions. Mais pour ce qui concerne la mission Dakar Djibouti, ceux qui travaillent dessus sont, on en plaisante entre nous, c'est-à-dire qu'on pense toujours en avoir terminé, mais on n'en a jamais terminé. C'est-à-dire que on ne pensait pas du tout qu'il y aurait ce projet d'exposition. On pensait avoir dit et écrit ce qu'on avait à dire et à écrire. Et en fait, il y a toujours de nouvelles sources qui se font jour et qui permettent de jeter un regard nouveau sur cette mission. Alors, il y a deux entrées à ce renouvellement du regard sur la mission Dakar-Djibouti et cet approfondissement de la connaissance sur Dakar-Djibouti. Il y a, comme je le disais, l'entrée par les sources, les nouvelles sources que l'on arrive toujours à retrouver, et notamment aussi grâce à la collaboration avec des collègues africains dans les différents pays que la mission Dakar-Djibouti a traversé. Donc, il y a cette entrée par les nouvelles sources qui se font jour, mais il y a aussi l'entrée par les nouveaux contextes. Et bien évidemment, le contexte des restitutions aujourd'hui permet, la question de faire apparaître des personnes invisibilisées, des objets invisibilisés. Il y avait jusqu'à présent les objets stars. Il y a les figures stars, Michel Léris, Marcel Griol. Il y a les sujets stars, il y a les objets stars, mais il y a aussi tous ceux qui ne le sont pas, qui ne sont pas des stars, et que aussi le contexte de restitution permet d'interroger. Alors, ma réponse donne un peu le sentiment que les nouveaux objets sont les anciens, mais ce n'est pas tout à fait ça. Je pense au contraire que le renouvellement du regard sur ces objets est une chose au moins aussi importante que les nouveaux objets que l'on va pouvoir découvrir.
Oui, et tant mieux, parce que je dois vous dire, enseignant l'histoire de l'anthropologie, bon, je ne suis aucunement africaniste ou spécialiste de la mission Dakar-Djibouti, mais pendant une dizaine d'années, je donnais Michel Léris à lire, précisément dans la fonction que vous dites là, c'est-à-dire comme figure critique de l'intérieur de la mission Dakar-Djibouti. Et j'ai pu observer, surtout si je compare avec le moment de mes propres études où on lisait Michel Léris, et la réception de ce texte de l'Afrique fantôme s'est tellement transformé depuis, disons, une vingtaine d'années. Il y a 20 ans, c'était vu comme un texte presque révolutionnaire. Aujourd'hui, je le donne pratiquement plus à lire. Il est en lecture complémentaire parce que Hugo pourra peut-être confirmer, mais le ton de Léris, son regard, le regard qu'il porte, irrite profondément nos étudiantes et étudiants aujourd'hui. Il y a quelque chose de générationnel qui s'est passé là, et de renouveler le regard critique sur cette mission-là va demander effectivement d'entendre d'autres voix, parce que celle de Michel Léris commence à avoir une teneur qu'il n'avait pas il y a quelques années.
Oui, vous avez tout à fait raison, mais j'ajouterais peut-être aussi que Dans le cas de Michel Léris, ça me semble aussi important de ne pas basculer, comme vous dites, il y avait on a vu en Léris pendant très longtemps celui qui dénonçait la colonisation alors qu'il ne le faisait aucunement. Et peut-être, je pense qu'il est très important de continuer à contextualiser au maximum pour ne pas basculer dans une autre interprétation qui serait de voir en Michel Léris un affreux colon, à l'inverse, parce que ce n'est pas non plus le cas. Et il faut aussi voir l'Afrique fantôme, non seulement dans le contexte dans lequel l'ouvrage est écrit, mais aussi à l'échelle du parcours de Michel Léris. En fait, l'Afrique fantôme constitue une étape dans une prise de conscience, dans une longue carrière, d'une part, et dans une prise de conscience progressive des réalités de domination. Alors ça, je dirais qu'il est déjà conscient du contexte de domination, et il le déplore déjà dans l'Afrique fantôme, mais il aura par la suite de sa carrière des véritables positions politiques après-guerre. Ces positions évoluent extrêmement vite, et donc c'est intéressant de voir cette œuvre à l'échelle d'un parcours entier.
Donc, contextualiser les savoirs et puis comprendre leur dynamisme au travers des époques, c'est ce qu'il faut retenir des travaux, justement, des anthropologues qui sont passés avant nous.
Je crois.
Sur ce, Marianne Lemaire, je vous remercie infiniment pour nous avoir fait découvrir cet univers, ces œuvres-là qui vont être certainement à explorer encore davantage et qui vont donner plein de nouvelles lectures, je pense, aux gens qui nous écoutent. Merci, c'est très apprécié.
Merci beaucoup. À vous.